ce que constitue un crime de guerre et notamment ce qui constitue la légitimité du terrorisme, de l'insurrection par le biais de la représaille. Si la représaille est légitime, eh bien, c'est bien que l'attentat est illégitime. C'est une question qui fait débat et où notamment les Français et les Britanniques, je dirais même surtout les Français, sont pris au piège d'une perspective rétrospective, c'est-à-dire l'insurrection est légitime en France occupée, mais évidemment elle est illégitime en Indochine. Et donc là, ce n'est pas que Vergès qui établit ce lien. Ce lien, évidemment, est très très présent. Et donc, dans les années 40, on est à la fois en train de faire une guerre anti-insurrectionnelle avec un regard sur le terrain, un regard prospectif, qu'est-ce qu'on permet à notre armée de faire, et un regard rétrospectif qui s'imbrique, et on voit là finalement une reformulation très vite assez conservatrice qui porte sur l'illégitimité de l'insurrection, et notamment le jugement du tribunal militaire américain sur les représailles allemandes dans les Balkans, en Serbie, vont vers une codification de la légitimité de la représaille et vont renforcer un élément qui est déjà dans le procès des Fossés Ardéatines, de la proportionnalité. Tuer 10 civils innocents pour un soldat tué, c'est légitime. S'il y en a 15 de plus, ça devient illégitime. Mais on est donc dans une recodification qui a des implications. Deuxième élément de contemporanéité, c'est évidemment un débat sur le terrorisme. Ben, une partie de ces procès coïncide avec, par exemple, l'attentat contre l'hôtel King David à Jérusalem. 100 Britanniques sont tués dans un attentat terroriste. Donc, là aussi, cette contemporanéité, ce dont on discute à Rome, a des implications immédiates dans des événements contemporains. Et donc, le terrorisme n'est pas simplement du ressort du passé. Plus centralement encore, je pense, ces procès sont contemporains à un débat en Italie sur le passé, et notamment le référendum de 1946. Est-ce qu'on choisit la monarchie ou la République? Finalement, on finit par choisir une République fondée sur la résistance, et donc on choisit pour la rupture. Imaginons seulement qu'on ait choisi pour la monarchie, eh bien, Vittorio Emanuele aurait été le Juan Carlos italien, on aurait eu un post-fascisme comme on a eu un post-franquisme, basé sur l'amnestie et l'oubli plutôt que la rupture. Là, on est dans le cas de choisir pour une république de la résistance, avec évidemment une vérité fondatrice de l'ordre politique. Et c'est ainsi, quand cette première république rentre en crise, on dit qu'elle meurt dans les années 90, qu'on trouve sur les murs en Italie, « Alla resistenza non si tocca », on ne touche pas à la résistance. Pourquoi est-ce qu'on affirme cela dans les années 90? Bien, c'est parce que la vérité de la résistance et la légitimité de l'acte résistant fondent cette république. Et évidemment, on dit là, on peut le mettre au défi au pénal, on peut le mettre au défi au civil, c'est le droit de la personnalité. Seulement, si cette personne s'appelle Sandro Pertini, c'est-à-dire le président de la République, eh bien, le droit de la personnalité et la légitimité de l'État se confondent, bien sûr. Ensuite, il y a d'autres événements qui vont remettre cette vérité en jeu, notamment les années de plomb, quand le terrorisme revient en Italie, terrorisme néofasciste, terrorisme des brigades rouges de l'OTA continua, c'est-à-dire tout le débat en Italie sur Adriano Soffri et Carlo Ginzburg sur le juge et l'historien, mais c'est aussi le retour d'un débat sur la violence comme instrument politique. Donc on peut voir là que cette vérité est une vérité quelque part coulée dans le bronze de la vérité judiciaire, mais dont les fonctions sociales et politiques ne cessent de changer tout au long de cette période. Et j'en viens à la communication d'Ornella. Et j'étais très frappé déjà hier par le parallélisme entre le cas ougandais que Cora Andrieux a présenté hier et le cas rwandais. On a les deux binômes, Museveni, Moreno Ocampo, Kagame, Carla del Ponte, qui scellent une espèce de pacte où pour les uns il s'agit de la démonstration du mandat, de la légitimité de la justice internationale par pour le cas Rwanda, l'inculpation de génocide, pour le cas du Rwanda, la possibilité de mettre au cœur de l'action les enfants soldats, etc., par un récit finalement cadenassé, pour le cas rwandais, la planification centralisée devient essentielle dans la démonstration du mandat du tribunal. Et de l'autre part, pour Museveni et Kagame, une vérité fondatrice d'un régime politique. La vérité du génocide fonde la légitimité au pouvoir de Kagame, ainsi de Museveni dans d'autres qualifications en Ouganda. Donc, pour Kagame, il y a quelque chose qui s'appelle génocide, qui a eu lieu au Rwanda en 1994 contre les Tutsis et qui exclut les crimes du FRP. Et donc pour Museveni, on a vu le parallélisme. Mais comment est-ce que cette vérité, qui est une vérité fondatrice d'un ordre politique, comment est-ce qu'elle est contestée et donc réaffirmée par l'ensemble des acteurs d'un procès? Comment est-ce que ça remet en jeu différentes temporalités, ce qui se passe après 94, ce qui s'est passé avant 94 jusqu'à finalement 1959, si l'on veut? Quelles sont les scènes sur lesquelles on prend la parole, conteste cette vérité ou offre des récits alternatifs au TPIR, mais évidemment aussi, il serait intéressant ensuite de regarder par la justice nationale rwandaise, par la Gacaca et par cette third country jurisdiction, au compte des pays tiers, s'arroge le droit de juger, notamment la Belgique. Et bien, un procès Ntuyaga, est-ce que ça offre d'autres possibilités, quelque part par la neutralité du terrain, pour contester ces récits? Voilà les réflexions que ces trois papiers très stimulants m'ont suggérées. Je pense qu'après tout cela, vous serez d'accord que les historiens sont bel et bien des cannibales prêts à dévorer tout cru tout ce qui leur est soumis. Merci.